aujourd'hui. Alcoolisme, faut-il prescrire du baclofène ? Le baclofène est un médicament autorisé depuis 1975 en tant que relaxant musculaire pour le traitement de certaines maladies neurologiques comme la sclérose en plaques. Or, les ventes de baclofène ont augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois en France selon la société Celtipharm. Cette première analyse de l'évolution de la consommation de ce produit est révélée par Jean Yvenot, journaliste sur Slate.fr, sur le blog qu'il tient à l'école des hautes études en santé publique. En août 2012, 45 000 patients ont été traités avec du baclofène, et Celtipharm estime que 11 000 d'entre eux l'auraient été dans le cadre d'un sevrage alcoolique. Rien à voir donc avec les maladies neurologiques pour lesquelles le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Or, si ce produit n'est pas prescrit dans le cadre de cette AMM, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, sauf si le médecin omet de le préciser sur son ordonnance. Nous voici donc au cœur de l'affaire baclofène, une affaire qui commence à dater puisque dès l'an 2000, une étude italienne faisait état de l'intérêt de ce médicament pour traiter la dépendance à l'alcool. En France, le médecin Olivier Amezen publie en 2004 un article dans la revue une revue internationale d'alcoolologie après avoir expérimenté lui-même le produit. Et en 2008, il publie chez De Noël un livre intitulé « Le dernier verre » dans lequel il plaide pour l'usage du baclofène contre l'alcoolisme. Un combat qu'il ne cessera de mener depuis avec passion. Mais parallèlement, les institutions tardent à statuer. L'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM, qui s'est substituée à l'AFSAPS après l'affaire du Mediator en 2011, n'a toujours pas produit d'avis sur ce détournement d'indication. Pourquoi faut-il tant d'années pour statuer sur une nouvelle indication d'un médicament ? Cette inertie des institutions ne favorise-t-elle pas la prescription de médicaments en dehors de l'autorisation initiale qu'ils ont reçue ? Dans ce domaine, l'affaire du baclofène n'est-elle pas similaire un peu à celle du Mediator ? Depuis des années, les médecins qui prescrivent du baclofène contre l'alcoolisme trompent-ils sciemment l'assurance maladie ? Comment définissent-ils les doses que prennent leurs patients ? Faut-il modifier les procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments afin de mieux suivre l'évolution des prescriptions au cours de leur vie commerciale ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Olivier Amezen, cardiologue, expert international en addictologie et professeur à l'Université de l'État de New York. Bernard Granger est professeur de psychiatrie à l'Université René Descartes et responsable du service psychiatrie de l'hôpital Tarnier à Paris. Et William Lovenstein est expert en addictologie, directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt, spécialisé dans la recherche et le traitement des dépendances. Et enfin, nous recevons Jean Yvenot, médecin et journaliste à Slate.fr. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Olivier Amezen, bonjour.
Bonjour, je tiens aussi à rappeler qu'outre New York, je suis au Conseil de l'Ordre de médecine, des médecins de Paris et j'exerce depuis 1983, donc je ne suis pas américain, j'ai mes licences pour exercer la médecine à la fois à New York et à Paris.
Très bien,
merci. Je peux dans les deux pays ce que je fais.
Merci de cette précision.
Oui.
Donc vous n'avez pas fait mystère de votre propre dépendance à l'alcool que vous avez soignée justement grâce au baclofène. Alors peut-être en deux mots, rappelez-nous ce qui s'est passé à cette époque.
Oui, alors d'une part, vous aviez souligné que dès 2000, Adelorato avait commencé à utiliser le baclofène. En fait, c'est faux. Ça a été dès 1991. Ça fait quand même un sacré bail. Ça fait combien ? Ça fait 20 ans. C'est Krupitsky avait commencé à l'utiliser exactement aux mêmes doses et avait aussi des résultats aussi médiocres qu'Adelorato. C'est réduisait tout simplement... faisait augmenter un petit peu l'abstinence, ce qui finalement ne sert à rien, puisque comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est d'obtenir l'indifférence complète, d'avoir plus de pensée d'alcool. Et moi, quand je ne bois pas, c'est pas parce que je me dis je vais ne pas boire, c'est parce que je me dis, vous mettez un verre de je ne sais quoi ici, pourquoi vais-je gâcher mon bien-être, alors que j'ai un verre de Vittel, si vous mettez un verre de je ne sais quel alcool, même si c'était du Dom Pérignon, je ne le boirais pas parce que ça m'abrutirait. Voilà. Et c'est ce message que je fais passer. Vous aviez posé quelques questions. Mon combat est complètement, je me fiche de
on
la...
On va revenir sur toutes ces questions.
Sur l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, c'est très important.
Absolument, on va revenir, c'est un point très important.
Ah, je voulais juste commencer cette intérêt, émission. C'est ça que je veux dire.
Je voulais commencer cette émission par peut-être votre propre témoignage
oui.
De ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait appel au baclofène et un petit peu comment il a agi sur vous.
Pour moi, c'était vivre trouver, c'est-à-dire c'était trouver ou crever finalement. J'étais dans cure après cure après cure après cure et je n'ai pas le luxe d'être addictologue, qui sont des spécialités, comme vous le savez, qui ne sont pas des vraies spécialités au même titre que la cardiologie, la gynécologie, etc., etc. Moi, j'étais cardiologue, j'ai fait des gardes et tout, et je devais sauver ma vie. Il me restait quelques jours, heures, je me mettais sur Internet, j'ai regardé 200 000 abstracts sur PubMed, et de ces 200 000 articles. Abstracts, voilà, et c'est là que j'ai vu un abstract qui est fait, j'ai tout appris, la neuroanatomie, la neurobiologie, etc., je suis considéré pour ça comme expert international, mais surtout j'ai vu un article en 1996 de David Roberts, qui a écrit que le baclofène supprime l'auto-administration de cocaïne, parfois intraveineuse, chez le rat rendu dépendant. Donc je suis parti de la cocaïne, pas du tout de l'alcool. Moi je ne consommais pas de cocaïne, je consommais rien d'autre que l'alcool, mais je suis parti de la cocaïne, c'est lui qui a découvert. Or il l'a fait en 96. Personne, pas un seul clinicien dans le monde, n'a pensé à faire un modèle translationnel. C'est-à-dire, moi, dès 2006.
C'est-à-dire un modèle translationnel.
Translationnel, c'est de transposer à l'animal ce qui se fait à l'homme. Ils se sont dit, puisque ça marche chez l'animal, mais ils se sont dit, ce n'est qu'un petit ratologue, nous, on est médecins. Donc, lui, s'est vu relégué, était en dépression. Et finalement, le jour où je lui ai envoyé mon article, il m'a dit, tu as transformé ma vie, je suis au nu. Et maintenant, on commence à refaire de la recherche. Il m'a dit, tu as changé. Il voit les guérisons. Il m'a dit, j'avais, en effet, trouvé quelque chose. Et je croyais, on m'avait fait croire que j'avais trouvé rien. C'est simplement les incompétents. Et pire encore, les incompétents du NIH, National Institute of Health, incompétents également de l'INSERM en France, incompétents de tous ces gens à qui j'ai demandé en 2004, faites des essais cliniques de ce que je vous demande. Ils ne les ont pas fait. J'ai réitéré mes demandes, j'ai 10 publications, dont Lancet, JAMA, etc., etc., dans lesquelles je demande des essais cliniques. Personne ne fait de evidence-based medicine dans le monde. Je suis le seul.
Pour rester sur votre propre... Oui. Expérience oui. du baclofène. Donc, vous découvrez ce produit dans oui. un article que vous venez de citer, et ensuite, donc, vous décidez d'en prendre. Oui. Et comment ça s'est, quel effet cela a-t-il eu sur vous ?
Comme je le raconte, un effet relaxant. C'est un relaxant musculaire. J'ai été très relax d'un seul coup, moi qui étais timide, etc. J'ai pu me relaxer et enfin avoir cette détente musculaire que je ne pouvais jamais me procurer. Donc d'un seul coup, j'ai eu ça. C'est la première chose que j'ai eue et ça a duré ensuite. Je suis resté pendant un an à 180 mg par jour, sachant pas si c'est une dose dangereuse ou pas. Donc finalement, j'ai contacté un neurologue, j'ai levé le petit doigt et j'ai dit, vous faites comment ? Et je suis tombé sur un neurologue qui me dit, moi je prescris 300 mg par jour depuis une quarantaine d'années, il s'est jamais rien produit. La dose maximale de baclofène qui a tué quelqu'un et jusqu'à présent n'existe pas. 2,5 g, c'est-à-dire 2500 comprimés, c'est-à-dire 250 comprimés de baclofène n'ont tué personne jusqu'à présent. Donc, alors que l'aspirine, vous prenez un comprimé, la pénicilline, vous prenez enfin, la plupart des médicaments, vous faites un édème de Quincke et vous mourrez d'étouffement, vous avez une piqûre de guêpe. Le baclofène, il n'y a pas un mort. Donc si on ne peut pas dire que ça c'est un médicament sûr, donc il y a une opposition et surtout un médicament pas coûteux. Vous savez combien vous coûte le prix, je vous ai amené des boîtes, 1,20€ par jour si vous avez besoin du traitement. Donc 1,20€, je pense que n'importe quel alcoolique ou n'importe quelle personne qui consomme la cocaïne, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être cher, peut se payer 1,20€ de sa poche et je ne veux pas qu'il ait besoin d'AMM. L'AMM viendra peut-être après.
Ne traitez pas tous les aspects du sujet, on va les explorer les uns après les autres. Bernard Granger, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, en tant que spécialiste de la psychiatrie, comment est-ce que vous prescrivez ? Quelle est votre position vis-à-vis de ce médicament ?
Écoutez, je le prescris et même de plus en plus. Je considère que Olivier Amezen a fait une découverte de premier ordre, exceptionnelle. D'abord d'une grande logique, effectivement, par transposition à l'homme d'un modèle animal. Et c'est lui qui a l'idée non pas d'utiliser les doses usuelles, mais d'utiliser de fortes doses.
Personnellement, des doses supérieures à celles qu'on utilise pour la prescription initiale.
En neurologie.
En neurologie. Bon.
Si vous voulez, c'est anecdotique, mais moi-même, je ne suis pas addictologue. J'ai cet avantage, je suis psychiatre. il se trouve que j'ai parmi mes patients, évidemment, comme tout psychiatre, des patients qui sont dépendants de l'alcool. Et l'un de ses patients m'a montré un article dans Le Point, en 2008, qui parlait du livre d'Olivia Mézen, Le Dernier Vers. Moi, si vous voulez, je me fiche pas mal de l'AMM, etc. Je regarde l'intérêt des patients. Je me suis dit, ça a l'air quelque chose de sérieux, il y a une logique, il y a un intérêt à utiliser cette molécule. J'ai utilisé, et j'ai vu que ça avait marché, et que ça avait marché de façon spectaculaire, et dans les termes qui étaient décrits par Olivia Mézen. C'est-à-dire que des gens qui auraient tué père et mère pour prendre un verre de vodka, tout d'un coup devenaient totalement indifférents à l'alcool, ou si on leur offrait un verre, ils finissaient même pas la première gorgée. Donc si vous voulez, moi après je l'ai prescrit, et je me suis aperçu donc qu'on était là face à une découverte exceptionnelle, et face à un traitement exceptionnel dans une maladie pour laquelle on n'avait pas grand-chose.
Il n'y a pas beaucoup d'autres...
Bon, ça m'est arrivé d'aider un patient à ne plus boire de l'alcool, mais c'est au prix d'efforts, de complications, de rechutes. Enfin, c'est un enfer pour les patients, et pour les médecins, c'est une maladie très difficile à traiter. Et puis, je dois dire que j'ai été assez étonné des réactions de mes collègues. Je me suis dit, mais attendez, là, on a, en plus, c'est une découverte française. On a un produit qui coûte pas cher, qui est sans danger, qui est très efficace. Et j'entendais de ci, de là, des gens ricaner, des gens dire donner des arguments qui ne me paraissaient pas valables. Et donc, je me suis un petit peu engagé pour, non seulement, évidemment, prescrire aux patients qui s'adressent à moi, mais surtout à l'égard des pouvoirs publics, à l'égard de l'opinion publique, pour que cette découverte fasse son chemin et qu'elle profite au plus grand nombre de patients possibles.
Mais très là, bien. Tu peux dire, si je peux
oui.
paraître,
que on va finir en premier tour de table, si vous voulez
juste,
bien,
monsieur. Juste un mot, c'est presque encore. Ce que je trouve très triste, c'est que tu as, et tu es un ami, pourtant, tu as menti. Tu as menti quand, à Cochin, le 24 janvier, tu as annoncé à ma conférence que j'allais ouvrir une conférence à Cochin, et après tu m'as dit d'aller au diable avec, et que c'était pas vrai. Donc toute la presse l'a pris au sérieux. Les patients m'ont écrit. J'ai eu une centaine de
patients. Tu peux soigner des patients, tu peux les soigner.
Normalement, le conseil est... Alors, on appelle Cochin et on dit c'est Granger qui prescrit Black Open, c'est pas Mézen. Donc, pour le conseil de l'ordre, c'est du détournement de clientèle.
Il faut porter plainte au conseil de l'ordre.
Voilà, pour nos auditeurs, on va rester sur le problème de Black Open et ne pas rentrer dans des problèmes trop personnels, s'il vous plaît, monsieur Mézen.
Mais non, j'ai mieux, parce que grâce à ce qu'a fait justement, ce qui n'était pas beau, mais le doyen. Patrick Berche, qui est le doyen de Paris Descartes, qui est donc au-dessus de tous les chefs de service, y compris donc M. Granger, etc., à la demande de gens qui étaient outrés de ta réaction, il y avait André Cahan, chef de service de Rhumato, il y avait Michel Zerbib qui a opéré les prostates de tous les présidents, comme vous le savez, ces gens sont allés faire pression sur le doyen en disant « Mézen fasse », et là, notez-le bien, le 28 septembre, entre 17h45 et 19h, une conférence qui sera d'un type tout à fait nouveau, où d'ailleurs je ferai monter un piano sur scène. Ce sera Amphithéâtre Richet, 15 rue de l'École de médecine. C'est le doyen qui m'a dit aussi, vous allez crever pauvre. Vous avez fait un truc, et c'est pas parce que vous avez fait une découverte qui sauve tant de vies que vous allez devoir crever pauvre. Faites payer 50 euros l'entrée et 20 pour les tarifs jeunes. C'est ce que je vais faire, mais je voulais l'annoncer.
Bien. Oui, mais moi, on en reparlera si vous voulez.
Et je l'annoncerai par mail, bien sûr.
Absolument. Olivier Levenstein, bonjour.
William
Levenstein. Pardon. William Levenstein. Vous êtes addictologue, justement, donc par différence avec Bernard Granger. Alors, comment vous avez vécu cette période, cette découverte d'Olivia Mézen, donc vis-à-vis du baclofène, et comment vous l'utilisez aujourd'hui?
Comme ça a été dit, il y a une vraie demande et un vrai besoin. C'est l'état thérapeutique au XXe siècle, au XXIe siècle, face à l'alcoolodépendance, et d'une tristesse absolue. On est avec des méthodes soit équivalentes à des placebos, avec un certain nombre de médicaments qui traînent sur le marché depuis une trentaine d'années, soit avec des méthodes non pharmacologiques que tout le monde connaît, qui vont en effet du soutien psychiatrique à alcooliques anonymes, qui sont assez difficiles à évaluer et qui sont des vrais parcours de combattants, et on est au bout du compte avec, je crois, 45 000 décès par alcool dans notre seul pays. Donc cette demande associée à l'idée,
par an,
cette demande associée à l'idée que la dépendance dans toutes les addictions, pas simplement dans l'alcool, est une réelle maladie fonctionnelle du cerveau et qu'il faut intervenir pharmacologiquement. Oui, s'il y a une possibilité médicamenteuse, et ça semble être plus que le cas avec le baclofène, ne nous en privons pas. Après viennent toutes les difficultés de la médecine, c'est-à-dire il n'y a pas un alcoolo-dépendant au monde, il n'y a pas que Olivier Amezen, il y a des millions de gens au monde qui ont des caractéristiques différentes et il y a des sous-populations. Donc c'est comment définir les indications, pour ne pas dire les sous-indications, dans une population qui est beaucoup plus hétérogène qu'on ne le pense, des personnes dites alcoolo-dépendantes. Ce qu'on avait déjà connu avec les personnes héroïno-dépendantes quand il avait fallu se battre pour amener et la méthadone et faire prescrire la buprénorphine en France aux personnes héroïno-dépendantes. Il n'y a pas de 100%, mais c'est comment on progresse pour savoir si en effet la meilleure indication par exemple du baclofène est l'indication relaxante que soulignait Olivier, c'est-à-dire si vous avez des gens qui sont dans une torture physique que seul soulage l'alcool, oui, alors là je peux vous dire que je prescris le baclofène avec certitude. Si par contre j'ai quelqu'un qui a une comorbidité, comme c'est vilainement dit, psychiatrique, je vais me demander si le baclofène va être possible et si je ne dois pas l'hospitaliser pour pouvoir à la fois traiter l'alcoolodépendance, mais aussi ne pas passer à côté de la maladie psychiatrique. Donc, une énorme possibilité à côté de laquelle, je pense, la plupart des médecins ne veulent pas passer, mais une nécessité de discernement pour ne pas laisser penser qu'on peut traiter à 100% un seul échantillon, en quelque sorte, ou une seule population d'alcoolodépendants.
Jean-Yves Nau, bonjour.
Bonjour.
Donc vous sortez justement aujourd'hui même sur votre blog dont j'ai parlé tout à l'heure les premiers chiffres un petit peu permettant de mesurer la prescription, le développement de la prescription du baclofène.
Oui, il me semblait que c'était, alors ces chiffres sortent, je tiens à le souligner, grâce à un travail fait par une société qui est spécialisée dans ce domaine, qui n'a pas de conflit d'intérêt particulier, s'appelle la société Celtipharm, qui travaille sur ce que vendent les pharmacies d'officine et qui a la mémoire en chiffré tout ça et qui est capable de... qui n'avait jamais travaillé la question, mais moi c'est une des questions qui me tracasse depuis en fait pratiquement la sortie du livre d'Olivier Amezen, sans lequel effectivement on ne serait pas réunis aujourd'hui, rien que pour ça on doit sans doute le remercier. Il y avait un chiffre qui traînait, selon lequel il y avait entre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, vous savez comment sont les journalistes, ils vérifient pas toujours leurs sources, 70 000, etc. Moi ça me tracasse quand même un peu, et je voyais que ces chiffres n'intéressaient pas vraiment ceux qui sont pourtant en charge parmi les institutions publiques de les chercher, de les étudier, de les évaluer, etc. Je pense l'Agence du médicament, qu'on appelle l'ANSM maintenant, qui s'appelait l'AFSAPS avant, comme si, en définitive, oui, il y a un problème baclofène, il y a une affaire baclofène, qui a plein de facettes, comme toutes les affaires, qui est journalistiquement passionnante, mais en particulier, elle est passionnante au travers des chiffres également. Donc, le fait de savoir que l'augmentation des ventes a été... sur un an de 30% en volume, c'est un phénomène qui, moi, me semble intéressant et qui questionne quand même beaucoup des disciplines concernées, étant entendu que les personnes sous baclofène aujourd'hui sont généralement des personnes qui consultent certainement pas toujours un psychiatre, parfois un addictologue, mais pas toujours, mais assez souvent des généralistes. Donc des médecins généralistes prescrivent un produit en dehors de son indication officielle de mise sur le marché. Et à ce titre-là, c'est quelque chose de passionnant et à étudier.
Alors les chiffres que vous donnez, c'est 45 000 personnes, par exemple au mois d'août, donc très récemment,
le
mois d'août 2012, qui prennent du baclofène, dont 11 000 le prendraient pour des raisons d'addiction à l'alcool. Comment arriver à distinguer les deux dans les chiffres de cette société, Celtipharm ?
Elle respecte l'anonymat, évidemment. Tout ça est une approche statistique. C'est très difficile d'avoir le détail précis des choses. Mais l'idée générale, c'est que, pas exactement depuis la sortie du livre du docteur Amezen, mais dans les jours qui ont suivi.
Oui, exactement.
Quand même,
pas dans les heures.
Voilà, il y a eu une montée en puissance des prescriptions, des consommations, qui ne cesse. Et alors là, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais ce médicament, en théorie, est prescrit à vie. ou presque, dès lors qu'il fonctionne, dès lors qu'il a une efficacité. En tout cas, avec le recul qu'on a, il n'y a pas d'arrêt. Donc, il y a a priori cet effet boule de neige qui fait que quand vous avez pris du baclofène, vous commencez à en prendre et qu'un nouveau consommateur s'additionne, etc. Et donc, il y a ce phénomène qu'on retrouve dans les chiffres.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique et que nous débattons aujourd'hui de la question alcoolisme, faut-il prescrire du baclofène, avec nos invités Olivier Amezen, cardiologue, expert international en addictologie, Bernard Granger, professeur de psychiatrie à l'université René Descartes, William Lovenstein, expert en addictologie et directeur général de la clinique Montevideo, et Jean Yvenot, médecin et journaliste à Slate.fr. Bernard Granger, vous vouliez réagir au propos de Jean-Yves Nau.
Parce que c'est alphabétique, non ?
Non, c'est libre, vous intervenez quand vous voulez. Bernard Granger voulait prendre la parole juste avant notre interview.
Oui, je voulais dire que pour les avoir rencontrés, les pouvoirs publics, que ce soit la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou la sécurité sociale, sont parfaitement conscients et ont observé cette augmentation des ventes. Ils sont persuadés aussi de l'intérêt de ce médicament dans le traitement de l'alcoolodépendance. Et troisièmement, ils sont empêtrés dans des questions procédurales qu'on évoquera tout à l'heure.
Mais j'aimerais dire qu'on a invité la NSM.
Oui, mais il y a ce qu'ils disent publiquement et il y a ce qu'ils disent.
Qui n'a pas souhaité participer. Ouais.
Alors la NSM, contrairement d'ailleurs à ce que vous avez dit tout à l'heure, a pris position. Elle a pris position deux fois, une première fois de façon très négative, et une deuxième fois cette année même, de façon beaucoup plus positive, en disant que le baclofène avait un intérêt chez certains patients, qu'il fallait des doses fortes, etc., qu'il fallait surveiller les effets secondaires, mais enfin ça a été vécu par ceux qui défendent l'utilisation de ce produit comme une sorte d'avancée dans les positions officielles, une sorte de feu vert. Et depuis d'ailleurs, c'est peut-être ça qui explique que les ventes progressent à ce point-là. Il y a probablement beaucoup plus de médecins qui le prescrivent. Et je voulais apporter une dernière précision. Le traitement à vie, c'est une question qui est souvent posée. C'est vrai pour certains patients, c'est pas vrai pour tous. Et très souvent, les doses initiales peuvent être très fortes, mais parfois, elles sont, même la plupart du temps, diminuées par la suite. Donc c'est pas les doses fortes initiales qui sont perpétuées à vie.
Olivier Mézène.
Merci. Alors, je voulais réagir à deux choses que tu as dites, Bernard. L'une, c'est qu'il faut savoir que c'est le laboratoire qui doit faire une demande de l'ANM. Hein, c'est pas l'AFSAPS ou la NSM. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent derrière. Les labos n'ont aucun intérêt. Donc, quel laboratoire demandera l'ANM ? Vous pouvez l'attendre. C'est pour ça que je dis, il faut pas attendre l'ANM parce qu'il faudrait qu'un laboratoire dise, on va débourser de l'argent pour faire une AMM qui ne rapportera rien. Donc, il faut prescrire hors ANM. Hors ANM, ce que l'on fait dans 80% des cas en pédiatrie et dans 70% des cas en pédiatrie. Absolument rien d'original à prescrire le baclofène hors AMM. Quand c'est, en plus ici, là-bas on le fait pour des troubles bénins, mais là on le fait pour une maladie salvatrice. Je parlais à Paul Green, à Columbia, qui prescrit du baclofène depuis 1991 chez l'enfant pour des troubles musculaires bénins. Il utilise 180 mg par jour chez l'enfant, avec un recul de maintenant, depuis 83, je crois qu'il fait 30 ans de recul.
Enfin, et bon, l'AMM, en dehors du fait que c'est une forme de garantie aussi, qu'on a fait des essais et qu'on est à peu près, qu'on connaît les effets. Dans ce cas-là, on les fait pas, mais c'est aussi une garantie de connaissance de la part des médecins de l'existence d'un médicament dans une indication particulière. Oui. S'il n'y a pas d'AMM, eh ben, ça se va se propager de bouche à oreille ou bien.
Oui. C'est exactement ce que dit le professeur. Vous avez exactement dit, c'est le mot. Le professeur Posner, qui est une légende vivante de la neurologie américaine, a dit, un médecin a tout à fait raison, il n'y aura pas d'essai de clinique pour les raisons qu'il explique dans son livre. Et tous les patients font lire, vos patients lisent, tes patients lisent mon livre, tu as lu mon livre, tous les médecins prescripteurs font lire ce livre, etc. Ce que Ce qui est important de souligner, c'est que ces patients, le traitement, bien sûr, doit être pris à vie. Si on dit à quelqu'un, il a un diabète, il pourra s'arrêter dans 10 ans, parce que c'est une maladie, j'ai défini non seulement la symptomatologie et la biologie, mais aussi un déficit biologique, c'est comme une intolérance au lactose. Si vous prenez si vous n'avez pas de lactase et vous prenez du lait, ou vous prenez de la glace, vous allez avoir des symptômes. Mmh. Donc, même chose ici. Vous ne pouvez pas arrêter de boire le médicament que vous ne produisez plus. Et depuis Labori, personne n'avait, les Italiens, l'équipe la meilleure en Italie, dit, si Amezen a raison sur cette hypothèse, il a élucidé le rôle du GHB. Donc non seulement j'ai traité le baclofène,
okay. Excusez-moi, William Novenchan voulait intervenir.
Oui, il y a quelques points en effet qui sont passionnants et qui ont été évoqués. D'abord, c'est l'importance, pour ne pas dire la quasi-exclusivité des prescriptions faites par les médecins généralistes. Pourquoi c'est important? Parce que on est en effet hors étude, hors évaluation, dans un pays qui a du mal à évaluer finalement ce que font ces médecins généralistes quand c'est un mouvement de masse. On a très bien connu ça avec un médicament dans la dépendance aux opiacés qui a été le Temgesic, puis le Subutex qui a été prescrit et qui reste prescrit par 95%. 95% des médecins généralistes. Il a fallu en fait que les épidémiologistes nous aident pour sortir des discussions sans fin, en montrant qu'il y avait une diminution des overdoses qui était significative, une diminution drastique de la contamination par le virus du sida et une stabilisation de la contamination VHC, etc., pour qu'on commence à avoir des biscuits, puisque les études se perdait, ce qui était valable aux États-Unis, il n'était pas en France, ce qui était valable en Australie, il n'était pas en Espagne, etc., etc. Donc, premier point, l'importance de l'épidémiologie et de la vigilance dans cette histoire-là. Deuxième point, ça a été dit tout à l'heure, c'est que ce qui est en train d'être fait pour l'alcool, ce mouvement de prescription par les médecins généralistes, l'est absolument pas pour la cocaïne. Et c'est une question qu'on peut se poser, parce que dans les articles initiaux, il y avait ce même effet qu'on dit, nous, anti-craving, c'est-à-dire qui stoppe cette envie impérieuse, cette envie folle de consommer, aussi bien pour la substance, pour l'autre. Et là, les équipes, alors, des sous-spécialistes que sont les addictologues, comme dirait Bernard, n'ont pas retrouvé dans la clinique, dans les essais cliniques, une efficacité similaire, en tout cas, pour la cocaïne. C'est intéressant comme question, parce que, dernier point, pas tout à fait d'accord avec Olivier sur les exemples gluten, etc. Il y a quelque chose qui s'appelle la neuroplasticité cérébrale que tu connais, ou lactose si tu préfères, même diabète et autres. La neuroplasticité cérébrale, c'est cette capacité quand même qu'a le cerveau de bouger avec ce qu'on lui apporte comme tranquillité pendant des années. Donc c'est pas ad vitam aeternam cette histoire-là, comme dans toutes les addictions. Si on arrive à filer une tranquillité au cerveau, que ça soit avec le baclofène ou rien, il est tout à fait possible que ce cerveau se resculpte tranquillement au fil des années, lentement, et qu'on ne soit pas sur une condamnation comme ça de traitement à vie.
Jean-Yves Nau. Alors attendez, Jean-Yves Nau, vous voulez intervenir.
Alors, le sur-spécialiste qui est le journaliste regarde les choses évidemment un peu différemment et ne peut pas rentrer dans les détails passionnants qui sont abordés ici, mais si on change un tout petit peu de focal et qu'on prend un peu de recul. Et pour répondre en particulier à Bernard Rongier. La question est quand même une question de santé publique majeure. On ne va pas redire les chiffres de l'alcoolisme et de ses conséquences.
Donc on était sur 45 000 morts par an.
Alors, toujours dire 45 000 morts prématurés.
Oui, bien sûr.
Ah oui, non, mais
moi, je dis 120 morts par jour. Parce que
120 morts prématurés par jour. C'est très important de le dire, parce que sinon, on meurt, en général. Bon, essayer de mourir de l'alcool et d'une cirrhose du foie, ce n'est pas très agréable.
Évidemment.
Voilà, entre autres. Donc voilà, c'est
problème de santé publique.
Problème de santé publique, et à ce titre, alors on en parle depuis toujours, mais le baclofène a apporté un élément complètement nouveau et qui révolutionne la question, même si c'est pas le baclofène lui-même. Le baclofène a cette vertu extraordinaire, me semble-t-il, de parler de l'alcoolisme d'une autre façon, et entre autres sur France Culture, chose qui n'aurait pas été possible sans lui. Rien que ça, c'est une chose prodigieuse, me semble-t-il. On peut en parler, on peut se fâcher, on peut vraiment même se fâcher beaucoup. Et croyez-moi, en coulisses, il y a beaucoup de fâcheries autour de ce thème. Mais moi, la question qui me tracasse en tant que journaliste, en tant que citoyen, etc., c'est le rôle des pouvoirs publics. Or, je ne vais pas accuser, je ne vais pas faire le procès de la NSM ou de la Sécurité sociale. J'en ai pas les moyens et pas la force, mais j'en aurais bien un peu l'envie, hein, quand même. Ce sont des gens qui sont en charge de ces questions et qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, comme le psychiatre le disait, empêtrés dans leurs propres difficultés. La Sécurité sociale rembourse, grâce à notre argent, les prescriptions de baclofène. C'est pas énorme, mais c'est quand même de l'argent. Ne sait pas trop ce qui se passe. L'agence en charge de la
sécurité... Elle les rembourse alors qu'elle devrait pas.
Elle ne peut pas savoir dans la mesure
où c'est hors AMM.
C'est moi qui l'ai fait faire, pardon. Exactement.
Non, mais alors, par principe, elle ne rembourse pas les prescriptions hors AMM.
Ça a changé depuis quelques mois, parce que depuis l'impulsion que je donne...
Parle, en général, je ne parle pas du baclofène.
Elle rembourse le baclofène.
D'accord.
Aller à la pharmacie, il sera remboursé. D'accord.
Même s'il est indiqué sur l'ordonnance.
Même si c'est marqué hors AMM. Voilà. Une autre chose que je voulais quand même, il y a quelque chose qui a été dite qui sont fausses. On dit qu'il y a des traitements de substitution, comme par exemple la méthadone dont parlait Monsieur No. C'est un opiacé et qui est prescrit comme 4% des opiacés dans tous les États-Unis responsables d'overdoses mortelles, de 30% donc ce sont des drogues. Le baclofène n'est pas addictif, n'est pas une drogue, il n'y a pas d'overdose.
Non, mais là vous compliquez le débat. Pardonnez-moi, mais vous compliquez.
Sur la méthadone qu'on a pu introduire en France, c'est un médicament comme l'est le baclofène, tout à fait différent du baclofène, je te l'accorde. Mais ne fais pas
un article dans le journal.
Pour faire avancer le baclofène, s'il te plaît, ne fais pas régresser le traitement de substitution aux opiacés qui a sauvé là des dizaines de milliers de vies.
Je m'inscris en faux, je vais vous dire pourquoi. Parce que je viens de publier dans ce mois-ci The Journal of Psychopharmacology en réponse au professeur Nick et Nat, qui sont les éditeurs en chef de Imperial College London, un truc dans lequel ils disent le baclofène est comme la méthadone un substitut d'eux. Ils mettent ma réponse sans avoir changé une virgule. Ils l'ont publié, cet article, et vous pouvez le voir, c'est Amazon Response to High Dose Baclofène. Donc l'histoire, le baclofène n'est pas un substitut, les autres sont des substituts. Donc c'est faux.
Aussi, j'ai lu cette réponse, effectivement, je souscris pleinement, et je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de lire les papiers d'Amazon qui sont remarquablement écrits, notamment la publication Princeps. Ils verront la rigueur du raisonnement qui a amené à cette grande découverte. Mais revenons maintenant à ce qui se passe pour les patients, parce que moi je prescris le baclofène à des dizaines et dizaines de patients, et j'ai le retour, je dis que le pharmacien alors. Alors en réalité, la situation...
Et vous prescrivez avec hors AMM indiqué sur la...
Moi je mets baclofène, 34 comprimés par jour, un mois, et je signe.
Donc pas d'indication.
Si j'étais respectueux de la réglementation...
Oui.
Mais en France, aucun médecin n'est respectueux de la réglementation du hors AMM. Si j'étais respectueux de la réglementation, il faudrait écrire hors AMM non remboursé. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, le hors AMM, si on prend n'importe quelle ordonnance, on a plus d'une chance sur deux de tomber sur du hors AMM. Donc c'est le hors AMM, si on se penche sur la question, on ouvre la boîte de Pandore. Alors pourquoi je ne mets pas hors AMM non remboursé? Tout simplement parce que je considère que le patient n'a pas à faire de sacrifices financiers pour un traitement qui lui est utile, qui est utile à la société, etc. Et la plupart de mes confrères prescripteurs de baclofène font de même. Et curieusement, la Sécurité sociale est parfaitement au courant de ça. Moi, je n'ai jamais eu, alors peut-être qu'après cette émission, ça va venir, mais j'ai jamais eu de coup de fil ou de mots de la Sécurité sociale. Certains d'entre nous ont pu avoir des coups de fil du pharmacien, mais certains pharmaciens disent « Ah, mais on peut pas le rembourser ». Mais enfin, grosso modo, on est dans le flou. Mais moi, je considère que le patient devant un traitement efficace, il a cotisé, alors, il doit être remboursé.
C'est un flou qui peut-être favorise le développement du baclofène, certainement même, mais en même temps c'est un flou qui est aussi à l'origine du médiator et d'autres situations dans lesquelles le patient n'a pas été totalement protégé.
Le médiator est un phénomène, je vous dis, c'est prescrit à 80% des malades pédiatriques et 80 et 70% des malades psychiatriques. Donc c'est pas parce qu'il y a un médicament qui sur 20 ans a fait 2000 morts, ce qui est toujours tragique en médecine, alors que l'alcool fait 45 000 morts. Vous imaginez, vous multipliez 45, ça fait 450, ça a déjà fait, en France, je ne parle que de l'alcool, a fait déjà un demi-million de morts. Alors donc le médiator ici, faut peut-être pas comparer l'incomparable. Donc la prescription ORAMM en plus fait partie de l'article 8 du code de déontologie. On n'a rien, c'est la liberté, c'est le médecin qui dit, moi j'ai
oui, on a le droit. On a
voilà
le droit,
exactement, on fait la prescription ORAMM, on le dit, on n'a pas besoin de préciser, on dit...
Non mais il y a une règle qui fait que le remboursement est lié à l'AMM.
Ouais, maintenant, voilà. Ça va être la question du remboursement.
Mais le remboursement, monsieur Albert Ganti, vous prendrez, est-ce que vous feriez rembourser bon, vous allez, si vous achetiez, c'est le prix d'un café au comptoir, si vous prenez de l'alcool, vous prenez, je ne sais pas, 3 litres de Jacques Daniel, ça coûte combien? Ça fait, je ne sais pas, 3 fois 20.
Je ne sais pas, c'est toi qui sais.
Non, mais je le dis au hasard, je n'ai pas vu combien coûte un, je sais pas, une bouteille de whisky ou une bouteille de vodka.
Où,
hein,
ça dépend où.
Pardon.
Ça dépend,
mais non, mais bon, dans un magasin,
c'est beaucoup plus cher, on est d'accord.
Bon, ça fait genre, je sais pas, 15-20 euros au hasard. Donc, quelqu'un qui boit 3 litres de vodka par jour, ça fait 45 euros. Si vous me dites que la personne ne peut pas se payer 1,20 euro de baclofène, ce qui est le coût par traitement journalier.
Mais non, mais c'est ce que dit Bernard Granger, qui considère que le patient n'a pas à payer un médicament qui est efficace pour...
Et c'est une question de dignité. Il veut dire, je ne quémande pas la
charge. Je ne crois pas que la question soit économique. C'est ça qui est terrible. Mmh, oui, on parlait des lourdeurs, des difficultés, des complexités. On est avec un médicament qui est à très bas prix, avec un potentiel thérapeutique, encore une fois, qui, à mes yeux, il faut affiner, comme pour tous les excellents médicaments.
Ce que je demande depuis 2004.
Mais exactement.
Et qu'on n'a pas fait.
Et si tu veux, on s'est déjà rencontré avant et on est d'accord sur, si tu veux, cette nécessité d'avancer. Oui. On a l'impression qu'on avance sans les pouvoirs publics, pour le
oui,
dire
mais
comme
sans
ça,
les cliniciens.
Avec le flou, avec pas mal de cliniciens quand même, chacun
non,
dans leur coin.
Il n'y en a pas un qui fait une étude.
Rassembler. Pas, à l'heure actuelle, le problème, il est celui que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en France, les études par les médecins généralistes, je te le disais, oui, pour le Temgesic ou le Subutex, oui, c'est horriblement difficile à organiser, tu oui, vois, même s'il y en a quelques-unes qui ont vu le jour. Donc ça y est, la vague est partie. Le problème n'est plus économique, c'est de pouvoir évaluer les résultats de cette vague pour aider au mieux les gens. Comment tu installes le baclofène, jusqu'où tu vas, quelles sont les intolérances, voilà, comment tu combats voilà, les difficultés,
tout ça, etc. Mais toi, tu connais mieux que tous evidence-based medicine.
Mais oui,
or, la médecine basée sur les données de la science, ici, n'est absolument pas respectée. C'est-à-dire, je demande en 2004 un article, et maintenant, la translation de ce truc s'est faite sur moi, par moi, en 2008, et toujours aujourd'hui, on était en 2004, on est en 2012, il n'y a pas un essai clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un clinicien. Donc, voilà, aussi donc, il n'y a pas un clinicien qui a dit dans une revue médicale, moi aussi, je suis comme un mézène. Il n'y a que moi qui vient et dit, je m'appelle Olivier Mézène, ma mère m'aurait dit, t'aurais pu dire, je suis pianiste ou je suis médecin, et je dis, je suis alcoolique. Connaissez-vous un autre dans le monde qui l'ait fait dans une revue médicale peer-reviewed? Il n'y en a pas un. Je suis le seul. J'ai été,
Bernard Granger, le problème quand même de la prescription, c'est que du fait de la situation actuelle, il n'y a pas finalement de véritables normes en termes de doses, en termes de ou alors elles sont faites par de façon empirique. Comment un médecin, par exemple, peut se déterminer et savoir comment prescrire du baclofène
très
à
facile
ses patients?
Non, si vous voulez,
médecin généraliste, par
pour essayer de voir les choses de façon plus conceptuelle, on parle de la médecine fondée sur les preuves. Bon. On définit des niveaux de preuves. Pour le baclofène, il n'y a pas le niveau le plus élevé de preuves qui est l'essai en double aveugle contre placebo. Il y en a un qui est en cours.
Non, il est moins bon.
On peut critiquer le protocole, mais il y a un essai du baclofène dans la dépendance alcoolique qui est en cours.
Et qui est réalisé par qui?
Qui est réalisé par des médecins français et qui est piloté par le docteur Jourjean, qui est professeur de médecine générale.
Je l'appelle de façon virulente dans la presse médicale actuellement.
Oui, non, mais non, on peut polémiquer sur...
Non, ne polémiquons pas, essayons de donner des informations à nos auditeurs, des informations utiles.
C'est très important.
Non, mais on peut critiquer le protocole de cette étude, mais c'est la première étude en double aveugle qui est faite à forte
mais
dose.
Mais qui ne sert à rien, il n'arrive même pas à recruter les
c'est
gens.
C'est pas
parce
vrai.
Que les gens...
J'ai eu en venant ici le docteur Jory au téléphone. Bon. Le recrutement avance très bien dans les temps.
Ouais.
0800 97 98 98 voilà. Pour les patients qui veulent être inclus
d'accord.
dans cet essai. Bon,
d'accord.
On verra les résultats de l'essai. Moi, je considère que c'était important
les
que cet essai...
Les essais sont non éthiques parce qu'on interdit...
S'il vous plaît.
Ensuite, on est au courant. Il est scandalé. Il est président du comité d'éthique de l'INSERM, mais il est au CCNE. Il est outré du fait que les comités d'éthique ont permis de laisser 12 mois des patients sans Daltrexone qui est approuvé et sans le Revia et sans Acamprozac qui sont approuvés. C'est-à-dire que l'essai de Jory va les priver de médicaments. C'est comme si on vous disait on a une nouvelle pénicilline, on va vous donner un ça contre un placebo. C'est un crime.
C'est le principe d'un essai clinique.
Oui, voilà.
Non,
on
n'a pas le droit quand on a un
médicament.
Non,
c'est difficile. C'est une question, pardonnez-moi, mais c'est une question très importante.
Oui, criminel.
Le baclofène a été expérimenté.
Ah, oui.
Sauvagement, on peut dire comme ça,
sauvagement
depuis plusieurs années, au vu et au sus de tous, je parle des institutions, les prescripteurs ont pris leurs responsabilités, parce que c'est quand même une responsabilité de prescrire un médicament en dehors de son indication, pour le bénéfice de celui qui souffre et qui vient vous voir. La Sécurité sociale a remboursé, tant mieux pour ceux qui ont pu être remboursés, elle aurait quand même pu lever les sourcils, elle ne l'a pas fait, c'est sa responsabilité. L'agence regarde et dit c'est pas bien de prescrire, mais laisse prescrire, et on est en définitive dans cette situation-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant que la chose est partie, expérimenter contre placebo un médicament dont on connaît l'efficacité par ailleurs, quand on connaît la souffrance et la difficulté des alcooliques, ça pose quand même une question relativement importante.
Cette année, les Australiens, 4 patients, les études anecdotiques, les Australiens, les Italiens, ainsi que les Américains ont exactement répliqué ma méthode. Et on dit qu'ici, l'évidence anecdotique est supérieure à l'essai, l'étude observationnelle, comme c'était le cas dans le cancer du testicule, est encore supérieure à l'essai randomisé, où tout est dilué, donc l'essai randomisé ne servira finalement à rien.
Très bien.
Et comme le dit Posner...
Excusez-moi, je voudrais que Bernard... Bernard Granger.
Mais il y a d'autres niveaux de preuve. Et les autres niveaux de preuve plaident en faveur du baclofène. Il y a une étude de cohorte très importante qui a été publiée, une étude observationnelle. Mais si ce qu'on observe ne vaut rien, il faut le dire. Mais excusez-moi, pourquoi je prescris le baclofène? Parce que j'observe que c'est des cas de guérison, je peux en publier des dizaines. Ouais. Et tous ceux qui le prescrivent aussi. Et ça, c'est une preuve d'efficacité qui a une valeur... qui n'est pas nul sous prétexte que c'est pas contre placebo. Inversement, il y a des médicaments qui montrent leur efficacité contre placebo dans les conditions des essais, puis après vous les utilisez dans la vie réelle et vous apercevez qu'il y a un gros décalage. Donc moi je pense qu'il faut être,
il faut que Bernard les publie sinon ça crée
une crédibilité
de ses résultats.
Je vais le faire, mais je pense qu'il faut avoir à l'égard des niveaux de preuve un regard critique et tenir compte de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que là, on est dans une situation où il aurait fallu commencer par les essais en double aveugle contre placebo. Pour des raisons multiples, ça ne s'est pas fait. Ça finit par se faire et c'est une excellente chose, c'est impératif.
Sauf qu'ils sont
c'est impératif. Et les patients, beaucoup de patients, sont volontaires pour être inclus parce qu'ils veulent aider justement la science à progresser et à ce qu'on y voit beaucoup plus clair sur l'efficacité.
Donc, ces essais...
Mais pour moi, ce que j'observe, excusez-moi, mais quand je vois répliquer sur des dizaines de patients exactement ce qu'Amezen décrit, exactement ce que les autres médecins prescripteurs décrivent, ça veut dire quelque chose. À ce moment-là, on ne fait plus de médecine.
D'accord, mais ma question était, aujourd'hui, si un médecin, un généraliste, veut prescrire du baclofène, est-ce qu'il a l'information nécessaire pour savoir quelle dose
c'est très simple.
Il a mon livre,
prescrire, etc.
Il y a le livre d'Amezen, c'est exact. Il y a sur Internet, il y a des sites, parce que...
Mais les infos sont mauvaises.
Non, il y a...
Sont mauvaises.
C'est pas vrai.
Je lisais. Même un article, si je peux me permettre. Tu as un article où tu as dit que je suis cardiologue émigré aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? J'habite à Paris, rue de la Grande Chaumière. Donc plein d'autres choses. Tu as écrit des conneries dans les blogs. Les blogs sont... Mais qu'est-ce que tu dis? Les blogs sont faux. Les infos sont fausses.
Il y a à l'intention des médecins un protocole de mise en route du traitement qui a peut-être de petites différences par rapport à ce que tu souhaiterais, mais qui est très efficace.
Très bien. Donc l'information existe et donc
mais
le médecin...
Oui, l'information existe.
William Loewenstein, s'il vous plaît.
Un mot, Olivier, s'il te plaît. Il y a un énorme potentiel thérapeutique. il y a une énorme révolution, comme cela a été dit aussi, c'est-à-dire encore une fois une approche pharmacologique possible pour une maladie qui souvent a donné lieu à des approches de psychologie des profondeurs ou la psychanalyse de l'arrière-grand-mère, et comme ça marchait pas, on accusait encore un peu plus le patient. C'est une vraie révolution comme celle qu'on a pu connaître dans la dépendance aux opiacés. Maintenant, on est avec un médicament en effet différent. Tu l'as rappelé, que les médicaments de substitution aux opiacés, qu'on aimerait pouvoir évaluer, j'ai envie de dire, assez tranquillement, comme tout médicament, que ça soit dans ses indications, plus spécifiques pour certains patients peut-être que pour d'autres, dans sa diminution des difficultés d'installation en termes de tolérance pour certains patients, parce que, pour faire dans l'anecdote, la première patiente à qui j'ai prescrit le baclofène, au bout de 48 heures, m'a dit, écoute, ça c'est sûr, j'ai pas bu, je t'en remercie, mais j'ai pas pu quitter mon lit depuis 48 heures.
Oui, mais elle a pris combien ?
Mais parce que j'avais prescrit à 30 mg et que c'était peut-être 20 mg. Et c'est ce type d'information.
Ben oui, c'est pour ça que je parlais des doses.
Voilà. Mais je l'ai lu, puisque je t'ai reçu il y a des années. Oui. Que t'as peut-être déjà oublié, que je t'avais fait des points. Et dans cette nécessité de clarification, d'installation, bon, j'ai envie de dire qu'il y a besoin d'un certain nombre de choses. D'abord, des organismes tutélaires, parce que pour l'instant, ce n'est plus interdit, mais c'est pas totalement recommandé. Voilà à peu près où on en est. Un peu plus de calme de la part d'Olivier, parce que tout peut pas se résumer à Olivier, et tout peut pas se résumer au cas de figure de personnes alcoolodépendantes comme Olivier, donc de voir qu'il y a beaucoup plus...
L'alcoolodépendante jusqu'en 2004.
Oui, jusqu'en 2004, mais tu vois, j'insiste sur l'hétérogénéité des populations dépendantes, qu'on ne fasse pas un alcoolodépendant ou un héroïnodépendant.
Le
potentiel thérapeutique est fondamental.
La première mondiale,
et c'est ce besoin de calme et de clarté, j'ai envie de dire, parce que sinon...
Voilà.
Olivier est en train de faire quelque chose qui s'appellerait peut-être en psychiatrie le mieux est l'ennemi du bien. Et il est en train de ralentir finalement ce qu'il voudrait accélérer.
J'essaye de dire.
On va pas justement rentrer dans ce débat.
Livre que j'ai écrit est considéré comme on dit jamais un livre grand public n'avait transformé le cours d'une maladie. Or, ça a été écrit maintenant dans deux préfaces et dans trois choses. Or, en moins de quatre ans, ce livre est dans Science, dans The Guardian, comme la plus grande découverte du siècle.
Très bien.
Comme etc. etc.
Donc, ça, je crois qu'on l'a bien. On l'a bien compris.
Ceci, cela.
Non, c'est pas la question.
Il marche aussi sur la cocaïne, sur l'héroïne, sur le tabac, sur la boulimie, sur le. J'ai traité des patients.
C'est pour ça que peut-être des indications plus précises seraient nécessaires.
Parce que par exemple, sur la cocaïne que tu cites, j'ai vu des patients flamber, tu vois, avec cocaïne et baclofène.
Oui, est-ce que, excusez-moi, leur avance.
Sûrement, mais comment les traiter correctement?
Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la part des patients qui sont véritablement sensibles au baclofène et qui sont soignés par lui?
Non, ce que je vais faire.
En pourcentage.
Je vais répondre.
Jean-Yves Nault.
Très modestement, non.
Mais non,
simplement non, parce que le baclofène est un phénomène atypique qui est apparu dans l'espace de santé publique français, avec ses agences, avec cet État qui a démembré la santé publique en donnant son pouvoir à des agences qui sont autonomes, qui fonctionnent très bien, sauf qu'elles sont incapables de prendre en charge, d'évaluer, d'analyser objectivement ce qui se passe et de peser sur le cours des choses. On dirait qu'elles sont tétanisées par cette affaire. Les sociétés savantes, la société savante française d'alcool, écologie, etc., n'est pas dans une situation particulièrement rationnelle vis-à-vis de ce phénomène, parce qu'il y a beaucoup d'affects, parce qu'il y a des conflits de pouvoir, parce que les hommes sont les hommes, même s'ils sont les alcoologues ou psychiatres ou addictologues, et que c'est très compliqué, et que par ailleurs, je reviens à cette question, me semble-t-il essentielle, cet essai actuel contre placebo se justifie-t-il aujourd'hui ou pas? C'est une vraie question à laquelle me semble-t-il, l'Agence de sécurité sanitaire des médicaments, éventuellement même le comité d'éthique. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas ensemble à cette question qui est une question relativement
importante. Sans cet essai, Jean-Yves Nault, est-ce qu'il est possible d'évaluer le baclofène?
Sans cet essai contre placebo, en toute rigueur, non. Bien sûr qu'il le... J'ai envie de poser la question suivante au docteur Granger, qui me semble un peu contradictoire sur cette question de l'essai contre placebo. Vous avez beaucoup parlé.
Oui, mais
vous avez beaucoup parlé.
Je parle, pardonnez-moi.
J'ai envie de poser la question à Bernard Granger. En 1950, aurait-il prescrit de la pénicilline contre placebo? Même question en 1955, en 60, en 60. À partir de quand est-ce que le placebo est encore légitime face à un produit dont on a démontré de façon très pragmatique l'efficacité?
Bernard Granger.
Je vous réponds tout de suite. personnellement, moi, je ne prescris pas de placebo, je prescris du baclofène. Ouais. Deuxièmement, on est dans une situation paradoxale où on nous dit on ne prescrit pas le baclofène parce qu'il n'y a pas d'essai en double aveugle contre placebo, on n'a pas la preuve la plus élevée dans le niveau de preuve que ça marche. Et après, on nous dit, c'est pas éthique de faire une étude en double aveugle contre placebo. Exactement. Donc, faudrait savoir.
C'est un problème de timing. On arrive trop tard.
Attendez, moi, je trouve que.
C'était criminel.
Il y a un essai en double aveugle contre placebo. S'il y a des volontaires pour cet essai. D'abord, c'est faux de dire que la personne va être sous placebo pendant un an. Parce que.
Mais enfin, monsieur, si la personne. Ce n'est pas au volontaire de se désigner comme volontaire. Si c'est un schizophrène qui se présente comme volontaire.
Ben, c'est au volontaire. C'est dans n'importe quel essai, que ce soit la pénicilline.
C'est bien curieux.
Vous ne connaissez pas la loi.
C'est la loi.
Je vais vous dire une chose.
Un volontaire éclairé.
Ouais, voilà. Oui, mais
sûr,
il n'est pas libre, consentement, consentement libre, librement et éclairé. Donc
quand je lui donne le baclofène, il a rejeté son consentement.
J'ai mis l'avocate de l'ordre
alors,
des
médecins. Laissez
Bernard Granger terminer.
On n'aura pas fini.
Laissez Bernard Granger terminer, s'il vous plaît.
D'autre part, il est faux de dire un essai en double aveugle contre placebo, on peut sortir à tout moment de l'essai quand ça ne marche pas. Si le placebo marche, et ça peut marcher, tant mieux pour le patient. Ce qui compte, c'est le résultat. S'il n'y a pas un bon résultat, il sort de l'essai. C'est un échec du placebo.
Ça dure combien cet essai?
14 mois.
Oui, mais...
Pendant lesquels les patients n'auront pas les médicaments normaux.
Il y a une exigence.
Des médicaments qui leur permettraient d'éviter avoir des
séances
de foie.
Une exigence.
C'est involontaire pour cet
essai. Il y a une exigence de démonstration scientifique imparable. Et il faut faire cet essai, il n'y a pas d'autre choix. On nous dit qu'il faut le faire contre naltrexone, ça ce sont des médicaments qui sont quasiment dépourvus d'efficacité.
Donc, je leur dis de se munir d'un conseil juridique. Comme ça, ils pourront attaquer. Si quelqu'un ne prescrit pas le baclofène aujourd'hui et que le patient décède, pour une raison ou une autre, la famille du patient pourra attaquer en disant « Monsieur le médecin, vous avez refusé de prescrire tel jour parce que vous vouliez vous protéger à cause de l'AMM, mais il n'y avait rien qui empêchait de protéger le patient. Vous vous êtes protégé, donc vous l'avez laissé mourir et donc vous êtes un criminel. »
Excusez-moi.
Donc, les médecins vont avoir les procès en retour cette fois.
William Levenstein, est-ce qu'aujourd'hui, les médecins, en attendant le résultat de cet essai, est-ce qu'ils ont, de votre point de vue, toutes les informations, ils peuvent trouver toutes les informations nécessaires pour prescrire du baclofène le mieux possible?
Combien paye-t-il le baclofène dans votre clinique?
Je ne pense pas qu'ils aient les informations nécessaires. Je pense qu'ils peuvent les acquérir, mais encore une fois, que ces mouvements d'agitation nuisent finalement aux patients eux-mêmes en retardant ce qui pourrait peut-être devenir plus simple. Donc, à l'heure actuelle, il serait certainement intéressant d'abord de comprendre que le baclofène est un espoir thérapeutique digne de ce nom. Deuxièmement, qu'il ne sera pas une molécule miracle de l'alcoolodépendance au corps, au pied, en passant par la cocaïnodépendance ou l'héroïnodépendance pour 100% des gens.
Peut-être pas pour les corps au pied.
Peut-être pour les corps au pied.
Non, pas pour la cocaïne, ça marche.
Mais plus sérieusement...
S'il vous plaît, monsieur, si vous pouviez laisser parler nos autres invités.
J'ai 1000 patients. Il y a 3 patients.
Je comprends très bien votre
patient,
il y a trois.
Donc, pour l'instant, ce que je voudrais te faire comprendre, Olivier, c'est qu'un peu de mesure t'aidera, un tout petit peu de mesure t'aidera à sauver des gens, alors que la démesure est en train de nuire au débat et aux patients.
Ça sort dans la préface, ça sort dans le New York Times dans quelques jours. Donc, il y a 3 professeurs de médecine. William Rudolf Stoller, qui est chef de service à Zurich, et de psychiatrie et d'addictologie. Il y a Fred Levin à l'Université de Chicago et il y a Rick Bilak qui conduit un programme dans les prisons dans l'Ohio, qui a maintenant le soutien du gouverneur. Ces gens ont plus de 85 à 90%, ils ont pratiquement mes résultats, de suppression complète de la dysphorie et de l'addiction. Ceux qui le font mal, c'est opérateurs dépendants. C'est comme si quelqu'un vous dit, je vous apprends à piloter un 747, vous dites, vous savez le faire, il dit, non, je ne sais pas le faire. Donc, évidemment, je ne rentre pas dedans.
Vous parlez d'addiction à l'alcool.
C'est une autre langue, l'addiction, que les médecins ne comprennent pas, les addictologues, et donc je ne vais pas former les médecins, je vais former les patients. Les patients la comprennent. Parce que quand tu vas en alcoolique anonyme, la personne sait tout de suite que c'est.
Surtout pas en alcoolique anonyme.
Non, ou en narcotique, peu importe. Ces gens vont vous dire.
Narcotique anonyme. Je pense que éthiquement parlant, on est dans justement ce qui est en train de changer.
On arrive proche de la fin de l'émission. J'aimerais savoir ce que les uns et les autres pensaient qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour faire avancer cette affaire et la faire progresser dans le sens où finalement, qui est le plus important, c'est-à-dire d'en faire bénéficier le plus de patients possible. Bernard Granger.
Écoutez, dès qu'il y a un progrès thérapeutique important, une révolution thérapeutique, ça met toujours du temps à entrer dans la pratique. Le baclofène, les chiffres de vente le démontrent, entrent progressivement dans la pratique.
Il de façon un peu sauvage, quoi.
Oui, mais
ce qui compte, c'est qu'il est
sauvage. De façon sauvage, oui et non. Il y a quand même des publications scientifiques, il y a des témoignages de patients, il y a les faits. Si c'était un produit placebo sans intérêt, ça se passerait pas comme ça. Bon. Cet essai en double aveugle contre placebo est fondamental parce que ça va permettre, après, probablement d'avoir une AMM et de faciliter la prescription, de former les médecins à cette prescription. Cela dit, moi, j'étais au courant de rien, je me suis formé. C'est-à-dire, c'est du devoir aussi du médecin de se former. C'est pas un traitement si difficile que ça à mettre en œuvre.
Voilà. Olivier Mézène, voilà. En quelques mots, s'il vous plaît.
En quelques mots, ça va être très simple. Qui est au plus haut échelon de l'État aujourd'hui? Le président de la République, François Hollande. C'est l'homme qui a le destin de combien de citoyens. Il y a des morts comme plus que l'accident de la route, ça tue plus que les accidents de la route dans ses mains. Donc c'est un problème et je suis prêt à lui offrir, car je peux dire qu'avec mes 10 ans mes 10 ans d'alcoolisme, plus mes 10 ans de savoir prendre le baclofène, etc., je veux bien s'il le souhaite, le lui expliquer personnellement pour qu'il ne prenne pas quelqu'un qui n'y comprenne rien comme Jory qui parle de demi-guérison ou de n'importe quoi. Donc je veux bien me rendre à l'Élysée, le lui expliquer à sa propre convenance. Je crois que ce sera l'étape la plus importante pour le traitement, parce que ça sera pris enfin dans les mains du président.
William Levenstein.
Oui, redire ça, qu'il y a une demande et un besoin réel de patients, en effet, en danger, et que c'est une raison majeure pour qu'on puisse avoir une évaluation qui nous réponde, qu'on sorte de l'idée, encore une fois, que ça puisse correspondre à tout le monde dans toutes les situations. Ça sera certainement pas du 100%, mais même s'il s'agissait de 50% ou de 40%, ça sera une avancée protectrice énorme, et d'où la nécessité vraiment de pacifier cette histoire et de la faire avancer.
Mais c'est du 95% dans toutes les études.
Moi, je pense qu'il y a une très belle opportunité.
Même si c'était du 50, ça serait merveilleux.
Ça serait merveilleux.
Moi, je pense qu'il y a une très belle opportunité journalistique qui est de regarder le baclofène comme une affaire qui se constitue, intéressante, passionnante, à tous égards, et en gardant en mémoire qu'on est peut-être, j'espère que non, bien sûr, mais en tout cas, on peut la regarder, cette affaire, comme une affaire médiator qui risque de se constituer, mais qui peut-être ne se constituera pas, quoi. Et avoir un traitement journalistique de cette question de santé publique, un petit peu comme une action préventive de ce qu'on a connu après coup avec le médiator.
C'est un peu le médiator à l'envers.
C'est très exactement le médiator à l'envers.
Non,
c'est
le médiator est
c'est très exactement le médiator à l'envers, puisque nous sommes en train de regarder l'affaire du baclofène en train de se constituer. Et à ce titre-là, je trouve que c'est une très belle opportunité, et c'est une, pour moi, en l'espèce, pardonnez-moi, ce trait final personnel, c'est une très belle opportunité de travailler cette question, par exemple, sur le blog de l'École des hautes études en santé publique.
Voilà,
il fallait le mentionner. Le médiator avait été interdit pas oublié de le faire. Aux États-Unis. Donc ça ne sert à rien de comparer l'un et le médiator. Le baclofène n'est pas interdit aux États-Unis,
très bien.
Au contraire. Le médiator, oui.
Voilà, donc on aura sur le blog, sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des références sur les ouvrages publiés sur ce sujet, en particulier celui d'Olivier Mézène, Le Dernier Verre, publié en 2008 chez De Noël, dont on a beaucoup parlé, et aussi Pour en finir avec l'alcoolisme de Philippe Battel, paru en 2011 à la Découverte. Je remercie bien entendu Olivier Mézène, Bernard Granger, William Levenstein et Jean-Yves Naud d'avoir participé à ce débat. Sur notre site, vous pouvez également réécouter cette émission pendant plusieurs mois et la podcaster pendant 2 semaines. Et bien entendu, nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages.